Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Vous n'ignorez pas que...
On choisit un peu par copinage. Un jeune, j'ose pas dire architecte, mais surtout un jeune conducteur des travaux qui s'appelle Jacques Denis Antoine, qui va devenir un célèbre architecte par la suite. Et on commence à faire les fondations exactement à l'emplacement actuel de l'Automobile Club de France. Lorsque la confrérie d'échangeurs et autres manieurs d'objets précieux et de pierres précieuses fait une revendication auprès du receveur général des finances pour dire « mais vous n'y pensez pas ».
C'est pas dans le quartier ?
C'est pas dans le quartier.
Vous n'allez pas l'habitude.
Vous n'allez pas délocaliser la monnaie. L'état des affaires en souffrirait. C'est ce qui explique la lettre écrite de la revendication. Démarche probablement activée en sous-main par la commission des monnaies, qui n'était pas aussi d'accord, vous l'imaginez, de faire une délocalisation d'à peine un kilomètre.
Toutes les délocalisations posent toujours problème.
Voilà. Et il faut se remémorer, le quartier, c'est le quartier financier de Paris à l'époque, le quai au change, le pont au change, la rue qui borde la Samaritaine d'ailleurs par la droite, lorsqu'on fait face à la Samaritaine à partir avec le dos à la Seine, s'appelle la rue de la Monnaie. Et donc, le projet va être arrêté sur plan. Alors, à ce moment-là, on va rechercher un autre emplacement. On va rechercher un
et autre, on va traverser la Seine, tout simplement, parce qu'il y avait des terrains là qu'on pouvait acheter, je suppose.
Alors, ce qui est assez extraordinaire, et là, je dois dire, en fouillant dans les archives, dans les rapports, on trouve des clins d'œil de l'histoire que moi, j'apprécie particulièrement, c'est qu'on va redécouvrir un projet d'un abbé, l'abbé Jean de la Griffe, qui était un architecte auprès de l'hôtel de ville, qui s'était d'ailleurs prononcé contre le projet d'extension-rénovation sur place, au motif que c'était trop cher, et qui avait dit « mais vous avez quai de Conti, le grand hôtel de Conti et le petit hôtel de Conti, et donc utilisez-les pour faire un nouvel hôtel de la Monnaie ». Alors, il se trouve que ces deux hôtels et un autre qui avait été acheté lorsque le prince de Conti est nommé chef de l'ordre du Temple et rejoint dans le troisième arrondissement, l'hôtel du Temple, et donc n'a plus besoin de son hôtel. Il fait racheter par le Trésor public dans des conditions sur lesquelles on pourrait discuter. Il fait racheter par le Trésor public ses propriétés pour y installer, c'est assez intéressant, pour y installer un nouvel hôtel de ville. Vous savez qu'en matière de développement urbain, il y a eu toujours deux tendances. Quand vous avez des difficultés à étendre le tissu urbain, vous allez créer à côté. Ce sont les villes nouvelles ou ce sont les quartiers comme la Défense ou Seine-Rive-Droite ou l'Ouest parisien. Et vous avez l'autre démarche, mais qui est relativement rare, qui consiste à détruire le tissu urbain existant et construire sur place. Il faut avoir un pouvoir politique et comme Napoléon III et un préfet comme le baron Haussmann pour pouvoir faire ce type d'opération. Mais c'est plutôt rare et compliqué, et difficile. Le tissu urbain est fait d'histoire, il y a des gens qui sont concernés, donc ce type d'opérations sont rares. Et donc, l'hôtel de ville, il faut se remémorer à l'époque, est enserré complètement dans la place de Grève, et donc l'idée qu'on le délocalise, lui aussi, qui est de Conti, avait été avancée. Le projet ne va pas, donc on rachète les bâtiments, le projet ne va pas aller au bout, et ils sont transformés, en fait, les bâtiments en garde-meubles royaux. Et donc, lorsque le projet Place Louis XV est arrêté, on se dit, voilà, on va retrouver cet ancien projet de l'abbé Jean de la Grive et on va le mettre à exécution.
Alors, ce palais de la Monnaie, il a deux grandes façades, immenses façades, une sur le quai, impressionnante par sa longueur, 127 mètres, je crois.
117.
117, j'étais pas loin.
Oui.
Et une façade aussi sur la rue Guénégo. Les deux façades, alors, vous avez droit à me donner une merveille sur chacune des façades. Qu'est-ce que vous choisiriez comme merveille sur la façade Quai Conti ? La porte ?
La Porte, indiscutablement La Porte, qui est une très 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 grande beauté. Étant entendu que nous sommes donc à la fin du XVIIIe siècle, pose de la première pierre 30 avril 1770, installation, je l'ai indiqué, 20 décembre 1775, c'est le néoclassicisme architectural français dans toute sa splendeur et qui se caractérise notamment par une très très grande simplicité des façades, des lignes géométriques assez strictes, assez rigoureuses, et la façade en elle-même est très très peu décorée, sauf les 6 statues qui sont sur le fronton de l'avant-corps. Mais le plus bel élément, c'est, vous avez tout à fait raison, c'est la porte d'entrée.
C'est la porte. Alors ça, c'était quai, sur le quai, maintenant rue Guénégaud, qu'est-ce que vous trouvez de magnifique? Des statues aussi?
Il y a 120 mètres de long, il y a également des statues, 4 statues qui représentent les 4 éléments qui effectivement sont assez belles, qui représentent les éléments de l'eau, de l'air, de la terre et du feu.
Alors évidemment, ici, à ce micro d'Ove Zera, nous n'avons pas la possibilité de détailler, mais je dois dire que dans votre livre, tout cela est merveilleusement détaillé et illustré, donc on peut s'informer plus avant. Il y a aussi, à l'Hôtel de la Monnaie, des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire des salles de monnayage, la fosse, par exemple, la fosse aux machines, tout ça, on n'imagine pas que ça existe. La fosse, par exemple, c'est très profond.
Oui, c'est assez profond parce que elle va jusqu'au sous-sol.
Voilà.
Bah, je vais vous dire combien de Parisiens, de Français, de personnes sont passés devant notre hôtel, n'imaginant absolument pas qu'il y a 13 068, pour être précis, mètres carrés d'emprise au sol par derrière, une surface développée de 23 000 mètres carrés. N'imagine pas que c'est la première manufacture et la dernière usine de Paris. Alors, c'est plus tout à fait une usine, le terme est un petit peu excessif. Ce sont aujourd'hui des ateliers d'art, principalement. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui méritent découverte.
C'est surprenant, voilà, ça mérite découverte. Alors, entre vous et nous, c'est-à-dire vous à l'Hôtel de la Monnaie et nous à l'Institut de France, il y a une petite place avec une statue, et c'est la statue de Condorcet. Je me suis toujours demandé pourquoi elle était là, mais je crois que vous allez me donner la réponse aujourd'hui.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est une petite place qui s'appelle toujours Quai de Conti. Elle n'a pas de nom, cette place. Alors, j'ai deux versions. Alors, j'ai l'habitude de dire, pour démontrer un petit peu un des éléments de notre culture d'entreprise, que le directeur à la Monnaie de Paris, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Pourquoi dis-je cela? Parce que quand vous visitez nos salons, tous nos salons ont un nom, mais un nom de graveur général. Mm-hmm. Et le graveur général, c'était la personnalité, le personnage important de notre institution. Et des directeurs, il n'y en a point. Le cas le plus extraordinaire, le directeur le plus célèbre, c'est Condorcet. Ben Condorcet, sa statue est en dehors de la maison, elle est sur la place. Ça, c'est pour la petite histoire. L'histoire véritable, c'est qu'en fait, Condorcet avait des fonctions, était secrétaire au Collège des Quatre Nations, puisque c'est pas encore l'Institut.
C'était pas encore l'Institut à cette époque.
C'était pas encore l'Institut, c'était le Collège des Quatre Nations. Donc, il a des fonctions, et comme il partage les fonctions au Collège des Quatre Nations et à la Monnaie, puisque c'est le premier inspecteur général des monnaies et médailles, à s'installer le 20 décembre 1775, donc la statue est entre nos deux maisons.
Voilà, alors nous saluons Condorcet et nous allons aborder maintenant l'histoire, parce que la Monnaie de Paris, c'est véritablement un lieu de mémoire et d'histoire. Est-ce que vous partagez cette opinion? Vous la défendez même?
Je la défends, je l'assume, je la défends. Et d'ailleurs, ce livre est le résultat de cette démarche de consignation. J'ai l'habitude de dire, quand on me dit « mais en quoi consiste ton travail ?» Bon, bien entendu, je suis patron de PME, donc il y a toute une série d'activités, relations syndicales, ressources humaines, travail des ressources humaines, l'organisation, mais j'ai l'habitude de rajouter « j'ai 10% de mon travail consacré comme guide touristique ». Et je fais visiter, et donc au fur et à mesure de ces visites, j'ai éprouvé le besoin de consigner tout cela.
La Monnaie de Paris, c'est aussi un musée. C'est là qu'on voit que ça conserve justement l'histoire. Quelle est la pièce de monnaie la plus ancienne? On ne va pas les passer toutes en revue, on n'aurait pas le temps, mais...
Oh, je dirais, mon cousin avec moi ici, tant qu'à faire, je le libère et je garde en otage ses 2 enfants, je le libère, je lui demande une rançon, 12 tonnes et demie d'or.
Et 12 tonnes et demie d'or?
Oui, quelque chose d'impressionnant. Je le libère et je vais essayer de récupérer une manne. Il est ramené à Boulogne, il fait le chemin et puis il s'arrête à Compiègne. Et le roi, en pareille circonstance, faisait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire qu'il réunit les états généraux et il va solliciter la bourgeoisie pour avoir des prêts ou des sous. Alors, sur le chemin, il accepte de marier sa fille avec un riche génois qui l'a sollicité depuis longtemps. Il récupère un peu moins d'une tonne d'or comme cela. Il avait refusé longtemps le mariage, mais là, sous la contrainte, la mésalliance est acceptée. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'à chaque fois que le tiers-état est sollicité aux états généraux, le tiers-état dit au roi « Sire, faites-nous une monnaie de bonne aloi ». Et donc, là encore, on pourrait dire qu'il l'appelle le franc pour dire « La monnaie est franche, la monnaie est honnête ». Et non, pas du tout. En fait, il appelle le franc parce que le roi est franc, le roi est libre.
Ah oui, c'est ça.
Et alors, ce qui est aussi assez extraordinaire, c'est que le royaume est dans un état...
affranchi, au fond, c'est le même mot qu'affranchi.
Exactement. C'est assez étonnant, c'est assez intéressant.
Oui,
et d'ailleurs, il va y avoir quelques éclipses du franc. Le franc va réapparaître sous Henri II, mais fondamentalement, il va réapparaître avec le franc germinal. Et le franc germinal, là, on utilise l'expression franc pour dire c'est une monnaie franche, c'est une monnaie honnête, on va tourner la page des assignats.
Voilà, donc là, ça a un petit peu changé de sens.
Mais à aucun moment, la référence à la France, aux Français, aux francs, n'est utilisée.
Alors, Dove Zera, puisqu'on va poursuivre un tout petit peu cette merveilleuse leçon d'histoire autour de la monnaie, dans l'histoire, il y a eu de nombreuses querelles au sujet du droit de battre monnaie, justement. Qui avait ce droit? Vous allez me dire que ça dépend des époques, mais aujourd'hui, qui a ce droit? C'est ça que je voudrais aussi savoir.
Alors, ce droit est essentiel. Je dirais, il est, si je puis utiliser une expression un peu précieuse, il est consubstantiel au développement du pouvoir royal. Je m'explique. Au départ, lorsque vous êtes du temps des Francs, des Mérovingiens, des Carolingiens, quelles sont les ressources du roi? L'impôt n'existe pas. Il a son domaine privé. Il faudra attendre l'édit de Villers-Cotterêts pour bien faire, sous François Ier, pour bien faire la distinction. Il a son domaine privé, donc les produits de ses fermages, les produits de ses bois. Les résultats de ces guerres...
Il est toujours en quête d'argent, en fait.
Il est toujours en quête d'argent.
Ils sont toujours en quête d'argent.
Et donc, le pouvoir de battre monnaie est essentiel. Est essentiel. À l'époque, c'est une des ressources, c'est le droit du monnayage, le droit de battre. Et donc, il va être assez concentré, assez pris par Charlemagne. Charlemagne est un roi qui va pouvoir concentrer entre ses mains le pouvoir de battre monnaie. À telle enseigne, d'ailleurs, il édicte deux édits, pris à Thionville à chaque fois, en 794 et 798. Et il va être repris après pour dire « la monnaie doit être frappée en mon palais
mm-hmm. »,
pour bien montrer. Bon, mais vous savez que la succession de Charlemagne est une succession compliquée, difficile. Et donc, comme souvent, lorsque les chefs se battent, les petits chefs, les petits roitelets, ils récupèrent le pouvoir. Et alors, c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 864, lorsque Charles II, dit Charles le Chauve, prend un édit pour créer la monnaie de Paris, en fait, j'ai l'habitude de dire, il fait une formidable opération politico-administrative, dont beaucoup de fonctionnaires devraient aujourd'hui s'inspirer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a strictement plus aucun pouvoir monétaire.
C'est un bluff.
C'est une sorte de coup de bluff. Et donc, il va dire, moi, je vais décréter atelier monétaire royal, tel et tel et tel et tel, et il en cite 12, dont l'atelier monétaire de Paris.
Ça veut dire qu'il y avait des ateliers un peu partout en France?
Oui, forcément. Forcément, parce que, pour deux raisons qui se conjuguent, c'est que les moyens techniques ne justifient pas de concentration, et corrélativement, les moyens de transport justifiaient une dispersion des lieux de frappe.
Par sécurité, évidemment.
Exactement, par sécurité. Et donc, en fait...
12 siècles d'histoire, on ne fait pas les 12 siècles les uns après les autres, mais tout de même, on arrive à une date, Monsieur Dove Zera, importante, je crois, dans l'histoire de la monnaie, le 1er janvier 1880. Que se passe-t-il ce jour-là?
Alors, je l'intitule comme cela, cet événement, mais à l'époque, il n'est pas présenté complètement. En fait, c'est la nationalisation de l'atelier monétaire de Paris. Là encore, le débat est engagé à partir de 1837 par un pair de France qui fait rapport et qui dit « on a un problème avec nos ateliers monétaires ». Il y en avait encore beaucoup, hein. Il n'était pas
combien,
encore...
Combien à peu près?
Une dizaine, un peu moins d'une dizaine. Et ils n'étaient pas encore regroupés, ils le seront à partir de 1880. Et le problème fondamental, c'est que il y a de nouvelles formes de fabrication, et notamment des presses monétaires, notamment la presse monétaire Tonnelier, que l'on appelle par le nom de son créateur, de son fabricant. Et donc, les ateliers privés n'avaient pas les moyens financiers pour faire les investissements nécessaires. Et donc, il faudra attendre, grosso modo, une quarantaine d'années pour que l'État prenne conscience du retard technologique que nous étions en train de prendre pour nationaliser l'atelier monétaire parisien et lui donner les moyens pour faire les investissements indispensables à un développement positif.
Alors, je dois dire que dans votre livre, on apprend des milliers de précisions historiques très utiles et très passionnantes. Je veux indiquer aussi que vous abordez des événements les plus lointains, on en a parlé un petit peu ensemble, mais aussi les plus récents, le nouveau franc lancé en 1958 par le général de Gaulle, la dévaluation de 1968, le franc face à l'euro, le lent dérèglement du système monétaire international. On prend aussi un peu des cours au passage et on comprend un peu le fonctionnement de notre système. C'est pour nous qui ne sommes pas économistes un peu compliqué, mais dans votre livre, on comprend les choses parce que vous nous donnez des clés très simples. Est-ce que vous avez voulu justement faire un livre très abordable pour les gens qui ne sont pas des spécialistes ? C'est votre côté professeur là qui
oui,
est ressorti.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous estimez que la majorité, au fond, des événements historiques sont liés à l'argent, à la monnaie, aux questions financières ?
La majorité, non. Tous les événements monétaires ont une influence sur l'histoire politique.
Alors, c'est évidemment la monnaie, mais ce sont aussi les médailles dont il faudrait parler, parce qu'il n'y a pas que des monnaies. Ces médailles commémoratives, il y en a beaucoup. Elles sont magnifiques, ce sont de véritables œuvres d'art. Je voudrais bien que vous nous donniez un exemple de ces belles médailles. Par exemple, celles qui ont été réalisées pour commémorer le bicentenaire du Premier Empire. Comment ça s'est passé ?
Alors, la médaille, c'est très très intéressant parce qu'à la base, au départ, c'est une pratique, une innovation italienne. Et je cite cela parce que, à l'époque, la cour de France cherchait les innovations qui avaient lieu en Europe et on n'avait pas peur des innovations qui étaient faites. Je donne un exemple en Allemagne pour le balancier, la médaille pour l'Italie. Et en fait, nous avions une cour de France qui était d'une certaine façon à l'affût de ce qui se passait à l'étranger, qui essayait par tous les moyens de l'introduire en l'améliorant en France. Je dis cela parce que c'est important. L'histoire doit nous aider à nous projeter dans le futur. Et par rapport à tous les débats sur la mondialisation, se plonger dans notre histoire et bien la comprendre, je crois que ça nous permet d'être plus armés. Alors la médaille, nous en avons une collection impressionnante. Et pour commémorer le bicentenaire du couronnement de Napoléon, nous avons fait appel à Jean Tullard, bien connu à l'Institut.
À Canal Academy, oui, nos auditeurs le connaissent bien.
Qui a choisi 48 médailles dont nous avons fait les exactes répliques de celles qui avaient été faites du temps de Napoléon. Alors, il faut savoir que Napoléon utilisait la médaille comme une sorte d'instrument de propagande politique. C'était le communiqué de presse. Et j'aime beaucoup, dans la présentation que Jean Tullard a faite de notre album de médailles, j'aime beaucoup ce passage où il dit « Napoléon a fait faire une médaille sur le débarquement en Angleterre. Et si nous nous retrouvons dans deux siècles avec plus aucune trace écrite, plus aucune preuve, plus aucune archive, mais qu'on vienne à découvrir au fin fond de quelque chose une médaille de ce débarquement de la Grande Armée en Angleterre, eh bien on pourrait dire Napoléon comme César a débarqué en Angleterre.
Voilà, comme quoi il faut toujours se méfier au fond. Les médailles, les monnaies, on les a vues, les médailles, mais il y a aussi les insignes et les décorations qui sont une partie importante de ce qui est produit à la Monnaie de Paris.
Tout à fait. Et on l'oublie de temps en temps, c'est nous qui avons une sorte de quasi-monopole des insignes de décoration. Et d'ailleurs, la Grande Chancellerie a rappelé que nous étions le fournisseur officiel de la Grande Chancellerie. Et c'est aujourd'hui l'objet de beaucoup d'innovations techniques pour améliorer la fabrication de ces insignes.
Et ces insignes et décorations, vous dites dans votre livre, elles sont à la fois civiles et militaires, que c'est encore une superbe clé d'entrée dans l'histoire. Parce qu'elles sont, on les regarde jamais assez de près, en fait. On les voit toujours de loin accrochées au veston. Mais en vérité, elles sont chargées de symboles. Et on voit aussi l'histoire sur ces décorations.
Je vais vous donner deux exemples pour qualifier votre commentaire. En 69, on fait une médaille de la jeunesse et des sports. Ce n'est pas un hasard.
Ah oui.
Quand on crée aujourd'hui une médaille pour le juge de proximité, ce n'est pas non plus un hasard.
Ça va avec la vie de la société. Voilà, c'est ça. Monsieur Davzera, pour finir, le 2 mai 2006, la fanfare de la garde républicaine à cheval est dans la cour d'honneur de l'hôtel de la Monnaie. Quel était l'événement qui justifiait sa présence?
Alors, nous sommes aujourd'hui 47 vrais monnayeurs de par le monde. Et nous nous retrouvons dans une sorte de structure un peu que j'ai l'habitude de qualifier une sorte de British Club. Et c'est ce qu'on appelle la conférence des directeurs de monnaie. Et tous les deux ans, cette conférence de directeurs de monnaie a lieu dans un pays. Et cette année, donc, nous avons accueilli cette conférence des directeurs de monnaie. Nous avons eu plus de 350 personnes venant de 67 pays. Et,
grand et événement donc... avec lequel nous établirons un lien.
Merci.